prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je suis Mathias Vesiglione, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et lauréat du prix Philippe et Maria Alphen 2020, décerné sur proposition de l'Académie des sciences pour mes recherches sur les maladies psychiatriques dont je vais vous parler maintenant. Alors le but de ces recherches, pour le dire en une phrase, c'est de mieux caractériser les états motivationnels ou les déficits motivationnels des patients pour mieux personnaliser les traitements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un déficit motivationnel ? Il y en a plusieurs. On pense d'abord à l'apathie. L'apathie, en première approche, c'est un défaut de motivation. Si on n'est pas motivé, on est apathique. Mais on peut aussi penser à peut-être un excès de motivation ou une motivation difficile à contrôler. Ça, ce serait plutôt l'impulsivité. Et puis, on peut décliner en différentes formes. Par exemple, on peut penser à la procrastination, qui est la tendance à reporter un effort, c'est-à-dire un devoir, une tâche pénible. Et ces troubles, on les retrouve dans beaucoup de pathologies, en neurologie, en psychiatrie, mais aussi dans d'autres maladies. Alors, si on pense à l'apathie, par exemple, en neurologie, ça va être la maladie de Parkinson, qui est due à la dégénérescence de neurones dopaminergiques et qui donc entraîne une perte de motivation, d'abord des symptômes moteurs, bien sûr, qui caractérisent la maladie, mais aussi une perte de motivation. Et puis l'apathie en psychiatrie, c'est par exemple la dépression. Le patient qui n'a pas d'envie, de désir, d'émotion particulière. Ça peut être aussi la schizophrénie, c'est ce qu'on appelle la partie déficitaire, les troubles déficitaires de la schizophrénie, c'est un manque de motivation. Et pourquoi c'est important de s'intéresser à ces troubles et de les soigner ? Parce qu'en fait, ils ont une forte répercussion sur la vie sociale, sur l'insertion professionnelle, mais aussi sur la lutte contre la maladie, s'il y a une autre maladie systémique, une infection ou un cancer, et sur la prise des médicaments. Donc en fait, les troubles de la motivation ont toutes sortes de retentissements sur les différents symptômes qui caractérisent la maladie. Alors comment est-ce qu'on évalue à l'heure actuelle un trouble de la motivation ? Eh bien essentiellement avec des questionnaires qui ressemblent un peu aux questionnaires qu'on voit dans les magazines, vous savez... à quel animal vous ressemblez, avec qui vous partirez en vacances, tout ça. Et là, c'est des questionnaires qui posent la question, est-ce que vous êtes motivé ou à quel point êtes-vous motivé ? Et vous avez un certain nombre d'items. Par exemple, est-ce que apprendre des choses nouvelles vous intéresse ? Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir ? Des questions comme ça. Et puis, on va noter les réponses. Donc, en général, il y a plusieurs réponses possibles, de absolument à pas du tout. Et on va attribuer pour chaque réponse un score. Puis, on fait le total des scores sur l'ensemble des réponses. Et on a ce qu'on appelle un score d'apathie, avec un seuil qui vous rend pathologique. Donc, au-dessus du seuil, on est apathique. En dessous du seuil, on ne l'est pas. Et en fait, questionnaires posent plusieurs problèmes. Ils sont très utiles parce qu'ils permettent aux patients d'exprimer ses troubles s'il en a envie. Ils posent problème parce qu'ils utilisent des concepts qui sont ceux du langage courant, mais qui n'ont pas forcément de contrepartie physiologique et qui donc ne vont pas aider à l'orientation thérapeutique, c'est-à-dire à identifier le trouble du point de vue neurologique et à indiquer quelle sorte de traitement il faudrait employer dans la pathologie. Et alors, vous avez des questions telles que êtes-vous apathique ? Vous sentez-vous motivé ? Et on voit que ce genre de questions demande en fait au patient de faire lui-même le diagnostic. Et ça, c'est problématique dans un certain nombre de cas, notamment lorsque le patient n'a pas lui-même l'insight, l'introspection suffisante pour verbaliser son trouble, ou bien s'il ne veut pas, parce qu'il y a aussi une question de désirabilité sociale, hein, on n'a pas forcément envie de se déclarer comme apathique. Et donc, pour ces raisons, on essaye de développer, alors dans mon laboratoire, mais on n'est pas les seuls, hein, aussi dans d'autres laboratoires, des tests comportementaux qui sont un peu plus objectifs et qui vont permettre de mieux caractériser le trouble de façon à orienter vers un traitement particulier, par exemple un médicament ou une thérapie particulière. Alors, quels sont le genre de tests qu'on va utiliser ? Ben, en fait, les tests sont très dépendants des modèles mathématiques qu'on va utiliser par la suite pour analyser les résultats des tests. Et ces modèles sont basés sur la théorie de la décision, qui nous dit en gros que lorsqu'on doit choisir entre plusieurs options, plusieurs alternatives ou plusieurs actions, on choisit celle qui a la meilleure valeur attendue, étant donné que la valeur attendue, c'est évidemment un concept subjectif que le cerveau calcule, estime, en pondérant les coûts attendus et les bénéfices attendus. Donc on envisage différentes actions possibles. On se dit, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ce qui va se passer est bénéfice pour moi ? Donc est-ce que ça me permet, par exemple, d'obtenir une récompense ou bien d'éviter une punition ? Et puis l'action elle-même, elle a un coût, ça me demande un effort, ça va me prendre du temps, etc. Et donc dans les tests, ce qu'on va essayer de voir, c'est cet arbitrage coût-bénéfice que met en place le patient, avec l'idée que la motivation, ça correspond en gros au coût maximal que le patient est prêt à endurer pour atteindre son but. Alors ces tests peuvent être très simples, ils peuvent se présenter sous la forme de choix, où chaque option comprend un coût et un bénéfice. Donc, au plus simple, ce sera par exemple deux options. Une petite récompense qui demande un petit effort versus une plus grande récompense qui demande un plus grand effort. Alors, l'effort, ça peut être un effort physique, par exemple, serrer une poignée de force. Hein, ça, c'est ce qu'on emploie au laboratoire. Ça peut être un effort mental, par exemple, faire un test de mémoire, essayer de retenir le plus d'items possible en mémoire. Et puis les récompenses, on peut en viser différents types, parce qu'en fait ça ne fait pas de différence pour le cerveau, toutes les récompenses sont traitées par les mêmes structures cérébrales. Ça peut être directement de l'argent, ça peut être un virement bancaire, ça peut être des chèques cadeaux, ça peut être des choses comme ça. Donc ça, c'est un test qui mettrait en balance l'effort et les récompenses. On peut faire la même chose avec le délai. Effort-récompense, c'est plutôt pour évaluer l'apathie. Délai versus récompense, c'est plutôt pour évaluer l'impulsivité. Donc on va demander, est-ce que vous préférez avoir une petite récompense maintenant ? Je ne sais pas, une part de gâteau au chocolat, par exemple, maintenant, ou bien une plus grande récompense plus tard, par exemple un repas dans un grand restaurant, mais dans une semaine. Et donc là, on va plutôt évaluer l'impulsivité, c'est-à-dire la tendance à privilégier le présent par rapport aux bénéfices futurs. Et donc, comment ça se passe ? On demande simplement aux patients de faire une série de choix de ce type-là. Alors évidemment, à chaque essai, chaque choix qu'on demande de faire au patient, c'est une nouvelle récompense et un nouvel effort qu'on lui propose. Il fait son arbitrage, donc il décide si ça vaut la peine ou si ça ne vaut pas la peine. Il nous rend sa réponse. Et donc, on a comme ça un ensemble de réponses du patient au cours du test qui peut durer, alors ça dépend des cas, on a des versions très rapides qui durent 3 minutes, mais qui ne sont pas très informatives, et puis des versions plus longues qui peuvent durer jusqu'à 3 heures, hein, comme un bilan neuropsychologique, si on a le temps, et si le patient est partant, évidemment, et n'est pas trop fatigué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les résultats de ces tests, donc l'ensemble des réponses des patients, avec des modèles, qu'on appelle des modèles computationnels, qui sont en fait des algorithmes mathématiques qui prennent en entrée les mêmes informations que celles qu'on donne aux patients au cours du test et qui, en sortie, génèrent le type de réponse qu'on demande aux patients. Donc, si on demande, par exemple, de faire des choix, bah, le modèle, à chaque essai du test, va nous dire s'il choisit l'option A ou l'option B. Et ces modèles comportent des constantes, qu'on appelle des paramètres, des fois des paramètres libres, parce qu'on peut les ajuster de façon à ce que les sorties du modèle, les réponses du modèle, correspondent au plus près aux réponses données par le patient dans les tests. Et quand on ajuste ces paramètres, eh ben, en quelque sorte, on caractérise le fonctionnement du patient. Ce paramètre, ça va être par exemple le poids qu'on met sur les récompenses, c'est-à-dire la sensibilité à la récompense, ou bien le poids qu'on met sur l'effort, ou le poids qu'on met sur le délai ou le risque. Donc on a de tels paramètres, et si, pour reproduire le comportement du patient, il faut mettre par exemple le paramètre de sensibilité à la récompense à zéro, eh ben on va dire que ce patient n'est plus sensible aux récompenses. Et de cette façon-là, on a caractérisé en quelque sorte son état motivationnel. Alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? C'est une bonne question. Donc, on s'est attaché à démontrer l'utilité de cette approche. Hein, donc, test comportemental plus analyse basée modèle derrière. Et on a fait ça dans plusieurs contextes que je peux détailler un petit peu maintenant. On a d'abord étudié, on va dire, des fluctuations subcliniques chez des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Donc, qui sont supposées saines, normales, pour étudier des variations d'état comme l'humeur ou comme la fatigue. Alors si je prends l'humeur par exemple, on sait, c'est un phénomène démontré à grande échelle, que les variations d'humeur vont influencer les décisions. On sait par exemple que les gens achètent plus de billets de loterie ou jouent davantage au casino quand il a fait beau. Surtout si le beau temps était inattendu, c'est-à-dire si on a une surprise positive par rapport à la météo, ou bien quand son équipe préférée a remporté le match de la veille, donc surtout si c'était inattendu, donc à nouveau une surprise positive. On sait qu'à la suite de ça, les gens ont tendance à parier davantage, en fait, et c'est généralement interprété comme un effet de l'humeur. Quand on est de bonne humeur, on prend davantage de risques. Et c'est quelque chose qu'on a étudié en laboratoire. Et on a pu mettre en évidence, on a en quelque sorte élucidé le mécanisme qui était à l'origine de cet effet-là, des fluctuations de l'humeur. Le mécanisme est le suivant, quand on est de bonne humeur, en fait, l'état basal du cerveau n'est pas le même. Et en particulier, l'activité dans une région du cerveau qui s'appelle le cortex orbitofrontal, donc qui est à l'avant du front, au-dessus des orbites, entre les deux yeux, l'activité de cette région-là est plus élevée de base. Et c'est une région qui va valoriser les perspectives de succès ou les perspectives de récompense. Et donc quand on fait une proposition au sujet et que l'activité dans cette région est élevée, eh bien, il va en quelque sorte amplifier les perspectives de gain, comme s'il voyait le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et donc les perspectives de gain vont l'attirer et il aura tendance à parier. Quand on est de mauvaise humeur, on a un phénomène symétrique qui fait appel à une autre région du cerveau. Donc c'est comme si dans le cerveau, on avait des systèmes opposants, un système qui est désirant en quelque sorte, qui est attiré par les récompenses, et puis un système qui redoute les punitions, un système d'évitement. Et ce système d'évitement, il fait appel à une autre structure du cerveau qu'on appelle l'insula, qui est un repli du cortex au-dessus des oreilles, vers l'intérieur du cerveau. Et quand l'activité de l'insula est élevée, il se passe l'opposé, c'est-à-dire qu'on va amplifier les perspectives de perte maintenant. Et donc si on est devant un pari, on va prendre peur, on a l'impression qu'on va perdre, et donc on va refuser le pari. Et donc ce mécanisme explique que selon qu'on est de bonne ou de mauvaise humeur, avant que le choix ne se présente, on va avoir tendance soit à prendre un risque, soit à ne pas prendre de risque. Et ça, c'est sur une personne normale, chez tout un chacun, pas forcément chez un patient. Mais on pourrait extrapoler au cas des troubles de l'humeur. Par exemple, dans les troubles bipolaires, on a des patients qui passent par ce qu'on appelle des états maniaques, donc une humeur très élevée. On a tendance à prendre des décisions telles que les achats compulsifs, les voyages dans les pays lointains, les projets grandioses, etc. On peut penser que le mécanisme dont j'ai parlé, avec le cortex orbitofrontal, est également à l'œuvre dans les états maniaques. Et peut-être que le mécanisme opposé, avec l'insula, est à l'œuvre dans les phases, dans les épisodes dépressifs des troubles de bipolaire. Alors l'autre exemple que je voulais aborder, toujours dans les fluctuations subcliniques, c'est celui de la fatigue. qu'on peut aussi caractériser comme un biais dans la décision. Cette fois-ci, dans un autre type de test, donc là, on ne s'intéresse pas aux risques, on s'intéresse aux délais et aux choix qu'on appelle intertemporels, donc entre une petite récompense à court terme versus une plus grande récompense à long terme. Et on s'aperçoit que quand on est fatigué, on a tendance à privilégier le présent, c'est-à-dire qu'on est plus impulsif, sous cette définition-là de l'impulsivité, hein, donc la préférence pour le court terme. Et c'est ce qu'on peut montrer, encore une fois, chez la personne normale, à plusieurs échelles de temps. Par exemple, au cours d'une journée de travail, les préférences intertemporelles vont changer. En fin de journée, quand on est fatigué, si on a fait un travail, par exemple, intellectuel intense, mais aussi un travail physiquement intense, on va avoir tendance à s'accorder des petits plaisirs immédiats et à négliger les projets à plus long terme. Alors je dis effort physique ou effort mental parce que en fait on pense que dans tous les cas on fait intervenir une fonction qu'on appelle le contrôle cognitif et qui sert à réguler des routines de bas niveau, des réflexes, de façon à atteindre des buts à long terme. Si je fais un travail qui n'est pas routinier, mais qui me demande de mettre en place des nouvelles stratégies. On l'a vu beaucoup avec la pandémie, où il fallait tout le temps s'adapter à des nouvelles situations. Bon, ben ça demande beaucoup de contrôle cognitif. Si je dois maintenir un effort physique difficile, qui fait mal au dos, qui fait mal aux articulations, le réflexe de base, c'est ça fait mal, je m'arrête, mais je dois poursuivre mon travail, donc je mets en place du contrôle cognitif. Si je fais ça un certain temps, je vais fatiguer également. Si je suis dans une situation sociale, où je ne peux pas me gratter, où je ne peux pas dire des gros mots, je ne peux pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui me regardent, ou parce que je parle à la radio, j'emploie du contrôle cognitif. Et ce contrôle cognitif, il fait intervenir une autre région, donc je vais parler d'une autre région du cerveau, qui est le cortex préfrontal latéral, donc juste derrière les tempes, des deux côtés. C'est une région qui est propre à l'homme et qui est la dernière à se développer au cours de l'adolescence. Et c'est une façon dont on peut expliquer le fait que les adolescents ont plus de mal à se contrôler que les adultes, et qui vont notamment avoir des comportements à risque que les adultes n'auront pas. Et cette région, et donc cette fonction de contrôle cognitif, a une propriété particulière, c'est qu'elle fatigue si on s'en sert en quelque sorte. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on pense que son fonctionnement entraîne l'accumulation de substances qui pourraient s'avérer toxiques pour le cerveau et qu'il faut recycler, ce qui entraîne un certain coût. Et donc, on économise en quelque sorte cette ressource. Et si on a utilisé, on a mobilisé du contrôle pendant trop longtemps, eh ben on va avoir tendance à faire taire cette région, cette fonction, pour éviter d'accumuler trop de toxines dans le cerveau. Et donc, nous avons également fait des études là-dessus au laboratoire, et on a démontré cette hypothèse dans différents contextes. Donc déjà, à l'échelle d'une journée de travail, j'en ai parlé, mais aussi à l'échelle de plusieurs semaines dans le contexte d'un entraînement sportif chez les triathlètes. Alors pourquoi les triathlètes ? C'est en fait une collaboration qu'on avait fait avec l'INSEP. L'INSEP, c'est l'institut qui entraîne les athlètes de haut niveau pour les grandes compétitions, pour les Jeux Olympiques par exemple, et qui s'intéresse notamment au sport d'endurance comme le triathlon. Et qui était très embêté, comme beaucoup de clubs sportifs, par ce qu'on appelle le syndrome du surentraînement. Le surentraînement, c'est une forme de burn-out, en fait, dans le sport, qui fait que l'athlète, du jour au lendemain, se plaint d'une fatigue intense, a du mal à assurer l'entraînement ou les compétitions. De fait, les performances chutent. Et si les coachs sont embêtés, c'est parce qu'on ne sait pas comment prédire ce syndrome, quand est-ce qu'il va arriver, et on ne sait pas non plus comment le soigner. Et en fait, on ne comprend pas très bien d'où il vient. Et donc, on a fait l'hypothèse, nous, qu'il s'agissait d'une fatigue cérébrale, en quelque sorte, c'est-à-dire une fatigue du contrôle cognitif, donc une fatigue du cortex préfrontal latéral, due à une charge d'entraînement trop sévère. Et pour démontrer le phénomène, eh bien, en collaboration avec l'INSEP, on a comparé un groupe d'athlètes, de triathlètes, qui s'entraînaient normalement et un groupe de triathlètes qui étaient surentraînés. Ça veut dire qu'on augmentait de 40% la durée quotidienne d'entraînement. Donc, au lieu de s'entraîner 10 heures par jour, c'est-à-dire de nager, de courir et de pédaler 10 heures par jour, ils faisaient ça 14 heures par jour. Et on les testait au début et à la fin de l'entraînement, après 3 semaines. Et on a vu qu'effectivement, chez le groupe surentraîné, il y avait une difficulté à recruter le cortex préfrontal latéral qui se traduisait par une chute des performances et aussi par un biais dans la décision, au sens où ils étaient plus impulsifs que le groupe entraîné normalement. Donc tout se passe comme si, effectivement, si... ce cortex préfrontal latéral entre en sur-régime, il va être régulé par le reste du cerveau, de sorte qu'on ne pourra plus l'employer par la suite. Et si on ne peut plus l'employer dans les décisions, ça va entraîner de l'impulsivité. Alors, j'en arrive maintenant aux pathologies psychiatriques, où on peut employer la même approche, donc employer les mêmes tests et les mêmes modèles, et essayer de caractériser les défauts de motivation avec cette approche computationnelle. Et alors, pour résumer un petit peu l'arrivée des courses, dans la dépression, ce qu'on observe le plus souvent, c'est une hausse de la sensibilité à l'effort. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas la seule possibilité. On peut être apathique parce qu'on est supersensible à l'effort, parce que tout nous paraît fatigant. La moindre petite tâche, ça nous paraît une montagne. On aimerait bien sortir, avoir des amis, tout ça, mais à l'idée de s'habiller ou de prendre le métro, c'est trop difficile. Mais il y a d'autres possibilités. Par exemple, on peut être apathique pour une autre raison qui est on est plus sensible aux récompenses. Ça ne nous dit rien. On n'a pas envie de voir des amis ou d'aller voir un film au cinéma. Et dans la dépression, la constante, c'est la baisse de sensibilité à l'effort et la baisse de la sensibilité... Pardon, c'est l'hypersensibilité à l'effort et l'hyposensibilité à la récompense est très variable d'un patient à l'autre. Et ça, c'est important parce qu'on ne va pas traiter les deux sous-types d'apathie de la même façon. Si on est supersensible à l'effort... on va plutôt employer un traitement sérotoninergique, donc qui touche à la libération de la, enfin plutôt à la recapture de la sérotonine. C'est l'antidépresseur classique. C'est le citalopram, par exemple, ou sous son nom commercial, le Prozac. Si par contre on a une hyposensibilité à la récompense, on va plutôt employer des médicaments pro-dopaminergiques. La dopamine, c'est un autre neuromodulateur que la sérotonine qui va intervenir dans le traitement de la récompense. Et on a d'autres molécules dans la dépression, par exemple la vorchiocétine, qui ont non seulement une valence sérotoninergique, mais aussi qui vont toucher d'autres systèmes, et notamment le système dopaminergique. Donc selon le type ou le sous-type d'apathie qu'on va rencontrer chez notre patient, même s'il s'agit toujours d'un patient déprimé, on va vouloir employer plutôt un type de médicament ou un autre. Dans la schizophrénie, ce qu'on rencontre plutôt, c'est une hyposensibilité à la récompense, ce qui est un problème parce que dans la schizophrénie est classiquement traitée par des neuroleptiques qui sont en fait des antagonistes des récepteurs dopaminergiques et qui donc vont avoir tendance à aggraver le trouble motivationnel plutôt qu'à le soigner. Donc en essayant de corriger les symptômes positifs de la schizophrénie, c'est-à-dire les délires, les hallucinations, ce genre de symptômes, on risque d'aggraver ce qu'on appelle les symptômes négatifs, c'est-à-dire les troubles motivationnels. D'où la recherche d'autres voies thérapeutiques pour les troubles de la motivation dans la schizophrénie, avec des recherches qu'on mène maintenant sur, par exemple, une autre substance qui est la kétamine. Donc voilà deux exemples hein, en psychiatrie avec la dépression et la schizophrénie. Maintenant, on peut généraliser l'approche. Hein, c'est ce qu'on appelle le phénotypage computationnel. On peut l'utiliser dans plusieurs pathologies psychiatriques, mais aussi dans des pathologies neurologiques ou des pathologies qui ne concernent pas le cerveau. L'idée est toujours la même. On peut faire un petit test. Ça peut se faire au lit du patient. On peut venir avec une tablette. Le patient répond en choisissant par exemple une option sur l'écran. On a une analyse qui peut se faire en ligne, qui va ajuster les paramètres computationnels du modèle. Suivant les paramètres, on peut faire une interprétation cognitive. Est-ce que c'est un problème de sensibilité à la récompense ? Est-ce que c'est un problème de sensibilité à l'effort, ou au délai, ou au risque ? Des choses comme ça. Et surtout, on peut faire la correspondance avec le système cérébral sous-jacent. Par exemple, problème avec la récompense égale problème avec le système dopaminergique. Et ça, ça va orienter vers un traitement particulier. C'est pour ça que je disais en introduction que ces approches computationnelles, c'est du moins l'espoir, vont permettre de mieux personnaliser la prise en charge des patients.